Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. Et voilà, on a maintenant les réponses aux questions que l'on se posait vendredi, ici même. Non, Marseille n'a pas pu rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Bien au contraire, l'OM était mené 4-0 à la mi-temps. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de la longue amitié entre les deux clubs. Bonjour Marc Libra.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Est-ce que l'ancien attaquant que vous êtes a mal à son OM aujourd'hui?
Bon, c'est pas évident, mais je suis venu en renfort avec mon fils Léo exprès parce que là je sens que les Marseillais ont besoin de soutien. Surtout quand je vois ce plateau autour de moi.
Il ne vous est pas hostile. Une sévère fessée. Une sévère fessée, c'est ce que vous écrivez, Dominique Sévrac, dans Le Parisien aujourd'hui.
J'ai écrit ça, moi.
Oui.
Ah bah,
à moins que
je confirme, alors.
Oui, c'est ça. Vous verrez qu'il est encore plus sévère que vous dans les commentaires.
Je vous ai amené du talent et je ne parle pas des hommes.
On va analyser cette fessée dans ce Radio Foot. Bruno Constant est là aussi. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Et si vous êtes là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on parle de foot anglais, à commencer par Liverpool.
De vrai football, quoi.
Ouais. Voilà. Liverpool qui reprend sa marche en avant avec un 9e succès en 10 journées de Premier League et cette fois 2-1 contre Tottenham. Marie-Amélie Mottet est avec nous également. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour à tous.
Vous nous direz deux mots, notamment de Grenade qui trône ce lundi en tête de la Liga espagnole. Alors c'est vrai que c'est aussi à la faveur du report du Classico Barça-Real, mais pour un promu c'est quand même une sacrée performance.
C'est explosif comme dossier, non ?
Voilà, c'est fait.
Ça fait comme ça.
Merci Dominique. Voilà pour le sommaire de ce Radio Foot. On va dégoupiller ensemble une émission préparée avec David Finzel. Voilà, comme ça elles sont toutes faites. Préparée avec David Finzel et Laurent Salerno. On est ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
L'arrière, les passements de jambes, le ballon pour Icardi. Oh, Icardi, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Verratti, petit ballon par-dessus, toujours Icardi. Le doublé de Mauro Icardi. Di Maria pour Mbappé. Et de France. Di Maria avec Kylian Mbappé. Et encore pour Mbappé.
4-0, les Parisiens nettement supérieurs aux Marseillais.
Voilà les gars. Classico remporté, 4-0 à la maison. Merci aux supporters, merci pour tout le monde. Très fier de l'équipe.
La fierté de Marquinhos après ce 4-0 infligé à l'OM. Mais au fait, si Valère Germain avait cadré sur son occasion de début de match du gauche.
Enroulé du gauche, oui.
Est-ce qu'on aurait vu un match complètement différent?
J'espère.
Dominique.
J'espère qu'on aurait vu une adversité, quelque chose comme un match de football entre deux équipes qui peuvent rivaliser sur le terrain, même si d'un côté vous avez beaucoup de talent individuel, un collectif assez technique, on peut compenser par des qualités d'impact ou de générosité, d'agressivité. Mais même ça, malheureusement, on ne l'a pas vu. Il n'y avait vraiment pas grand-chose hier soir du côté de l'OM. Et moi, ça me rend fou, quoi.
Ah oui, carrément.
Ah bah oui, parce que moi, ce que j'aime dans la rivalité Paris-Marseille, c'est que je ne sais pas normalement qui va gagner. Mm-hmm. C'est ça qui est... C'est les classicos d'antan, le meilleur ne gagnait pas forcément. Il y avait vraiment match, quoi. Et là...
Il n'y a pas grand-chose, parce qu'il est surtout beaucoup trop du côté de Paris. C'est ça, en fait, la différence. Moi, c'est pas tellement Marseille qui m'a inquiété, c'est le PSG qui était déchaîné. On les a rarement vus aussi déchaînés comme ça d'une première période. J'ai même l'impression que la première période d'hier était plus forte encore que celle face au Real Madrid.
Alors on va.
Le niveau est exceptionnel.
J'ai deux matchs. Je trouvais que le Real était supérieur comme en termes de qualité technique.
De diversité, oui.
Oui, non, mais le match du Paris Saint-Germain contre le Real était supérieur en termes de.
On va venir au PSG, mais d'abord s'occuper du cas de l'OM. Je reviens sur la question, Marc. Est-ce que si Valère Germain marque ce but sur cette première occasion, on peut voir tout autre chose ou quel que soit ce qui est arrivé, de toute façon, la victoire du PSG était inéluctable.
Ça me semble
hier soir.
Même si Marc, ça ne change rien à la donne. C'est-à-dire que le PSG aurait accéléré quoi qu'il arrive, puisque c'est vrai qu'avec ce raté du gauche, alors pas mal des gens ont dit c'est facile, il n'y a qu'à marquer, c'est quand même un geste qui est quand même très difficile.
Compliqué.
Voilà, elle n'est pas forcément prévue pour lui, il revient en retrait, elle passe au-dessus. Ça n'aurait forcément rien changé. Peut-être que les Parisiens, sur ce coup-là, auraient joué la mi-temps et peut-être la seconde s'ils avaient marqué dans la foulée. Mais non, il n'y a pas. On ne peut pas comparer aujourd'hui des joueurs qui, à Marseille, ont un niveau et le niveau des joueurs parisiens qui, pour moi, on fait un bon match, mais c'est pas le meilleur match. Pour moi, je les ai trouvés beaucoup plus tranchants face au Real Madrid et beaucoup plus importants parce qu'il manquait des joueurs cadres et surtout Icardi n'était pas à ce niveau-là dont il est aujourd'hui. Donc voilà, on a vu un tout petit Marseille. Comme je l'ai dit hier soir, je trouve qu'on avait des enfants qui jouaient face aux adultes, ou alors des joueurs de l'OM qui étaient là, qui étaient au Parc des Princes avec 45 000 personnes. Ils regardaient les joueurs du PSG. Parce que quand on voit Verratti, techniquement, il est au-dessus du lot, et quand on le regarde à 3-4 mètres, on voit toutes les actions de but, tout le monde recule. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une photo ou les regarder ou vivre avec eux, ben voilà, on peut pas rêver mieux. C'est-à-dire que sur la première période, on a même des Parisiens qui n'ont pas forcé, mais qui jouaient presque en marchant.
Ça me fait plaisir la réaction de Marc, parce que j'avais l'impression qu'à Marseille, tout le monde avait renoncé, quoi. Villas-Boas, alors c'était un artifice de communication, ouais. Il avait dit, ouais, les classicos, c'est pas comme ça, moi j'en ai vécu au Portugal, ou en Angleterre, ou en Espagne, on sait jamais qui va gagner, il y a une incertitude sportive, là, voilà. Donc, il disait ça pour préparer les supporters à une éventuelle défaite, c'est de la com. Mais j'ai eu l'impression que ces joueurs avaient compris le message, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué le match, que les supporters, finalement, ils ont interdit de déplacement, mais ils n'ont pas vraiment mis la canebière sans dessus dessous. Donc je suis content de voir que Marc, ça l'énerve encore un peu, parce que j'avais l'impression qu'un club, tout un club, toute une ville avait renoncé. Ça serait quand même dommage.
Ça date de quand, le dernier classico, il y a eu une vraie adversité entre PSG et
l'OM. Ils ont gagné le 27 novembre 2011, 3-0 Marseille.
2011, ouais.
Ouais.
Il y a 8 ans.
Et ça fait 20 matchs de suite, toute compétition
confondue. Il y a 8 ans.
Oui.
Le PSG d'aujourd'hui, c'est pas le PSG d'il y a 8 ans. Il y a trois classes d'écart entre ce PSG-là.
C'est pas une raison pour pas se battre.
Et l'OM.
C'est l'attitude, moi, qui me.
Mais ils ont eu une attitude peut-être pas de derby ou de classique ou de ce que vous voulez, mais ils ont essayé de jouer quand même.
Mais combien de cartons jaunes, combien de fautes
s'est fait
par Monsieur Bastien? Ils ont renoncé.
Ça s'explique pas au niveau des cartons.
Ils ne
l'ont
pas joué,
un derby
match.
Ou un match d'une grande rivalité. On l'a vu avec il y a pas longtemps avec Manchester United Liverpool, il y a pas eu énormément de cartons. C'est pas que des cartons.
Non, ils ont intégré la défaite, tu vois.
Ils ont essayé de jouer. C'était risqué et voilà.
Alors c'est marrant parce que Dominique, ce que vous dites, c'est un peu ce qu'écrit la Provence ce matin, le grand quotidien du. Bah vous pourriez, oui, puisque la une du cahier sport de la Provence. C'est il y en a marre. Ouais. Et alors, ils expliquent qu'ils considèrent que l'OM a été humilié, mais surtout que cette raclée, c'est pas une fessée, mais c'est une raclée, est d'autant plus insupportable que les Olympiens ont donné l'impression d'abandonner le combat.
Bah, il me semble. Hein.
Voilà.
Il me semble.
Marc, c'est ce que l'on ressent. Sur la première période, quand on voit des joueurs, alors c'est vrai, ils ont essayé de, pendant 10 minutes, de faire un semblant d'aller chercher un pressing, de sortir, mais c'était désordonné, ça n'évolue pas en équipe, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien sur ce coup-là. Et quand on commence à voir le premier but, et là on sait qu'à chaque accélération, c'est-à-dire que Paris peut leur faire du mal, et en fait, eh ben, on va assister à ça. On va assister à la mise à mort, en fait, tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ça qui est le plus terrible. C'est ce que je me dis, mais, parce qu'à la mi-temps, on se dit, mais, tout le monde se dit, mais je pense qu'on peut avoir un record là. Mais vraiment, c'est-à-dire que on a vu Kylian Mbappé au bout de 4 minutes qui fait une accélération sur le côté, sur ouverture. Il a mis 2,50 mètres à toute la défense marseillaise. On se dit, mais là il va y avoir un gros problème. Mais ça, on le sait.
Ils ont une chance, Marseille, dans leur malheur, c'est que Paris avait gagné, mis 4 buts à Nice, avait mis 5 buts à Bruges, que Mbappé avait pas joué à Nice très peu, 10 minutes. Qu'il est en phase de reprise, que Cavani lui aussi est en phase de reprise, que Neymar est pas là, parce qu'à 4-0 ils sont un peu arrêtés de jouer à la pause, et ça aurait pu finir à 8-9-0 si c'était pas toujours les mêmes joueurs qui jouaient, c'est-à-dire Icardi, Di Maria. Bon, d'un moment ils se sont dit 4-0, on a fait le job, les supporters vont être contents, on arrête. Donc toute l'équipe s'est un peu arrêtée, mais d'autres joueurs qui auraient eu besoin de prouver ou qui seraient dans le rythme aurait pu encore pulvériser encore plus cet OM, quoi. Ça aurait pu finir avec une humiliation historique. Le record, c'est 5-1 ou au Vélodrome ou au Parc. Mm-hmm. Ça aurait pu finir à 6-7-8-0.
Alors, on se tourne vers le banc et on va écouter André Villas-Boas. Bon, vous avez rappelé ce qu'il avait déclaré avant le match. Voilà ce qu'il a dit. On va écouter un extrait de ce qu'il a dit après. Et il parle en particulier du deuxième but d'Icardi sur l'ouverture de Verratti. Très précise, la justesse technique de Verratti dont vous parliez, Marc, et Icardi qui était parti, alors ça c'est pour comprendre ce qu'on va entendre, à la limite du offside, donc du hors-jeu. André Villas-Boas.
Je suis responsable pour cette équipe. On a essayé de bien faire l'offside, mais c'est vrai que le temps que Verratti a trouvé pour jouer cette ballon était suffisant pour mettre le ballon de qualité pour battre notre offside. Et mettre les joueurs en ligne. Après, évidemment, ils sont rapides, ils sont intelligents dans les espaces. Mais ça, c'est ma responsabilité. On a essayé de faire offside cette semaine et on a payé un prix pour ça, avec ce but. Ce qu'on a fait, on a changé un peu le système à 4-4-2 pour avoir un peu plus de pression et aussi un peu plus d'attaque. Et l'attitude était incroyable de la part de mes joueurs. Très courageuse et je reste avec le deuxième mi-temps.
Voilà, deuxième mi-temps, bon, c'est vrai que factuellement, il y a eu 0-0 en deuxième, sur l'ensemble de la deuxième période. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire pour autant, Marc?
Non, on peut pas. Enfin, on se satisfait que Paris n'ait pas continué à jouer. Ce sera peut-être un débat tout à l'heure, on en parlera avec Dominique sur ce point-là. Mais pour revenir à ce cas de hors-jeu, le hors-jeu, ça se travaille à la perfection. C'est-à-dire, ça se joue à 1 mètre, 1m50, hop, on monte, mais on suit son dernier défenseur. Qui c'est qui couvre? C'est Sarr. Mais Sarr, il est au courant de rien. Sarr a grandi, a vécu dans le football en étant attaquant de pointe. Depuis 3 ans, on nous a dit, non mais attendez, Sarr peut aller en équipe de France, c'est un latéral. Mais on marche sur la tête, mais c'est pas possible. Je me suis dit, Garcia s'en va, Sarr va récupérer son poste, s'il vous plaît. Non, non, pas du tout. Ben, c'est normal, il est pris dans son dos, sur toutes les ouvertures, il est mal placé. Mais c'est même pas de sa faute, c'est-à-dire qu'on lui dit, ah non mais on est persuadé que tu es bien latéral. Non mais c'est pas possible, c'est pas un latéral, c'est n'importe quoi.
Ça aussi, c'est
intéressant. Et là on nous dit, le offside, non mais il n'y a pas de offside, c'est-à-dire que c'est comme si moi... À l'âge de 10 ans, je suis attaquant. Et ben d'un coup, à 25 ans, me dit Marco, tu as grandi, tu as évolué. Ben maintenant, tu sais quoi, tu vas être défenseur. C'est bon, j'ai pas les codes, j'ai rien.
Il est pas défenseur depuis hier.
Mais ça s'apprend pas.
J'imagine qu'il
ça.
Était présent lors des séances d'entraînement précédant le match, durant cette semaine où ils ont travaillé le hors-jeu. C'est ce que dit Villas-Boas. Après que ça marche pas, ça c'est de toutes les équipes. Mais ils l'ont travaillé. Si lui après il a traîné,
mais il y a une intelligence de jeu, tu peux pas l'avoir.
Là vous parlez de l'OM comme si on parle d'une équipe qui est en Ligue des Champions tous les ans, qui va en quart de finale, etc.
Tu vas à la guerre sans les armes.
Sur le la guerre entre l'OM et le PSG, on la voit pas depuis des années.
On a un arrière droit qui joue à gauche, Sagaï. On a Bounassar, qui est un attaquant qui joue latéral droit.
Mais ça on le savait.
On a Jordan Amavi qui est annulissime, qui est sur le banc au cas où il y a un souci. C'est pas possible que l'OM, qui a un budget qui doit être dans les 4-5 premiers de la Ligue 1, qui est un club qui doit être dans les 50 plus fortunés au monde, et à Kazlou Bizarreta comme directeur sportif, qui a un propriétaire, qui a eu Rudy Garcia,
mais
qui
là,
a
repris sur le recrutement,
qui a Jacques Andréo. C'est pas possible que depuis 3-4 ans, il n'ait pas, même si le marché des latéraux est compliqué, c'est impossible de continuer avec
ça.
Sakai,
c'est pas nouveau, ça c'est pas nouveau. On est fin octobre.
Les latéraux, il y en a deux dans une équipe. Sur 11 joueurs, il y en a deux. C'est important.
Bah, il fait le choix de pas faire jouer à ma vie. C'est son choix. L'OM, cet OM-là, aujourd'hui, les semaines précédentes, l'OM va mieux. Il y a du sens dans le jeu de Villas-Boas. Et c'est une équipe qui peut terminer sur le podium. On parle pas de l'OM qui peut être champion. On parle d'une équipe de l'OM qui dit ça. Sur le podium.
Tu es persuadé? Non, mais tu suis le football, tu le connais très bien.
J'ai l'impression que vous les jugez comme s'ils pouvaient être champions et qu'ils pouvaient rivaliser.
Jamais de la vie.
Pourquoi ils ont pris Rongier en joker? Ils n'avaient même pas réussi à le faire avant la fin du mercato. Pourquoi ils ont pris Rongier alors qu'ils ont d'autres besoins? Un 6, Trotman,
c'est
leur
choix. C'est plus un 6. On va pas refaire l'histoire.
C'était il y a 2 mois à la fin du mercato.
Bah oui, mais c'est trop tard.
C'est pas sérieux. Ou Bizarreta, il est pas arrivé il y a 2 semaines. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Jacques Henriero, ça fait plusieurs années qu'il est là. À un moment donné, ces gens-là, ils doivent rendre des comptes plutôt que de faire des trucs sous PowerPoint et montrer des trucs.
Mais ils vont pas rendre des comptes après un match face au PSG qui écrase tout le monde. Vous n'avez pas jugé l'OM sur ce match face au PSG.
Rennes a gagné à Rennes.
Si l'OM finit sur le podium, on dira quoi?
Comment?
Si l'OM finit sur le podium à la fin de la saison. Parce que depuis le début de saison, c'est ça qui monte, c'est qu'ils se rapprochent du podium et qu'ils sont pas très loin du podium.
Au mois d'octobre, ils ont joué 2 matchs à l'extérieur, ils ont perdu à Amiens, ils ont perdu au Parc.
Non, mais on verra par rapport à ça. On va pas juger toute la saison de l'OM sur ce match face au Parc. Ou alors, vous rendez pas le
match à Amiens.
Des classes d'écart entre les deux équipes.
Le match à Amiens, c'était affreux.
Alors à propos
face à Strasbourg aussi, c'était compliqué la semaine dernière.
À propos des individualités, on a cité Bounassar qui effectivement est un peu dans l'œil dans le collimateur là. Quand on regarde, on a un spectre large sur les commentaires. Est-ce qu'il n'y a vraiment personne à sauver là hier?
Moi, je trouve que Payet de l'OM, son retour a pas démérité, puis surtout celui qui est le meilleur depuis le début de saison, c'est Mandanda.
Là, il a fait un bon match, vous considérez, hier?
Ah oui. Je considère qu'il n'a pas...
Sans lui, il y en a peut-être un ou deux de plus.
Ouais, moins. Ce qui est dommage, c'est que cette erreur-là du deuxième but, elle coupe les jambes à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'un 1-0, et puis c'est là... En fait, Mandanda est vraiment le joueur phare qui leur a apporté des points. Donc quand on est joueur, on sait très bien ce qu'il nous apporte. Et puis d'un coup, on mince, lui, il flanche sur ce match-là. Ah, on n'est pas bien. On est au Parc, ça pousse. Et à ce moment-là, les joueurs disent, ah mince, il a fait une boulette. Pas lui. Mais ouais, il fait.
Tu trouves qu'il flanche, qu'il a fait une boulette?
Non, mais le deuxième but, il te coupe un peu. Ah ben oui, sur la sortie, je pense qu'on sort pas comme ça. C'est-à-dire que ou tu prends l'homme ou tu prends le ballon. C'est-à-dire que là, t'as ni un ni l'autre.
Il est en retard.
Il est vraiment en retard. Ça s'appelle une mauvaise lecture.
Ouais. Mais c'est pas une boulette pour moi.
Ouais, non, c'est pas une boulette.
Ah ben, elle te coûte. Ben, c'est-à-dire que s'il reste sur sa ligne, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un duel.
C'est dur. Il gagne son duel sur Icardi avant ou après, je sais plus.
Je suis d'accord, juste avant, ouais. Mais
là, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je trouve que. Ouais.
Bon, après, il y a aussi.
Il est dur. Hein.
Oui, il est dur.
Vous êtes dur.
Mais parce qu'il aime, donc il est dur. Alors pourquoi l'OM n'y arrive pas? Vous avez abordé, effleuré cette question, Dominique. Alors que d'autres, oui. D'ailleurs, tiens, on peut faire un petit point avec Marie-Amélie sur les équipes, les clubs qui ont réussi à battre Paris depuis toutes ces années où le Qatar est aux commandes.
Alors, depuis l'arrivée des Qatariens à l'été 2011, il y a 20 équipes qui ont battu le PSG en championnat.
20.
Dominique l'a dit, la dernière victoire de Marseille, c'était en novembre 2011. Et sinon, il y en a eu 20, donc Lyon qui a battu Paris à 5 reprises. Et sinon, il y a des équipes un peu plus modestes, on va dire, et Evian, donc Gaillard, Toulouse, Reims, Strasbourg. Mmh.
Mais parce que c'est pas
pourquoi pas Marseille?
Parce que c'est pas la même implication du PSG face à l'OM que face à Reims, Angers ou Strasbourg. Et on l'a vu cette saison. On l'a pas vu pas plus tard qu'il y a un mois ou deux. Le visage affiché par le PSG face à Reims, c'est pas le même que face à l'OM. L'implication est pas la même. Les jours qui précèdent la rencontre, c'est pas la même.
Cet argument-là, d'accord, mais est-ce que c'est valable quand on parle de l'OL?
C'est beaucoup dû à Paris.
Ouais, c'est un autre niveau, quand même.
Hein. C'est beaucoup dû à Paris. C'est parce qu'ils ont perdu le 27 novembre 2011. C'est parce qu'ils ont perdu qu'ils ont décidé de plus perdre. Mmh. C'est-à-dire que quand ils ont compris ce que c'était qu'un classico, au départ, c'est des Zlatan Ibrahimovic et des Cavani, c'est des gens qui n'ont pas la culture française de ce que c'est que cette rivalité entre Paris et Marseille. Ils s'en fichent un peu, pour le dire un petit peu vulgairement. Mmh. Mais quand ils ont compris que c'était important pour le PSG, alors c'est un des rares trucs de la culture club qu'ils ont repris. Et là, ils se sont dit, ah ok, ça c'est un match que les supporters adorent, et ben on va le cibler ce match-là. Et donc ils ont décidé de ne plus jamais le perdre. Donc ils sont allés sous Bielsa, à l'OM, avec des tifos magnifiques, dans une pression de dingue. Ils ont gagné. Ibra, il avait coché ce rendez-vous alors qu'il a vécu il en a vécu d'autres. Même il a joué à Barcelone, il a joué à l'AC Milan. C'est pas forcément un choc contre Marseille, mais bon, il l'avait quand même. Voilà, Di Maria l'avait coché. Ils l'ont tous coché. Thiago Silva l'a coché. Donc ce match est devenu pour eux important. Donc pour moi, c'est devenu quasiment un joueur pour Marseille. Mmh, mmh.
C'est vrai qu'on a vu le PSG, alors on va y venir au PSG, alors façon d'aborder ce match par exemple, un peu en mode Ligue des Champions, vous êtes d'accord?
Ah oui.
C'est là où Dominique peut-être m'éclairer, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques temps qu'on revoit ce genre de choses, c'est-à-dire que là, le PSG, ils sont vraiment gentils, quoi, je trouve. Parce que ce qu'ils sont capables de faire sur la seconde période, pour moi, c'est pas normal.
Est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce que c'est une faiblesse du PSG?
C'est là justement que je voulais savoir par rapport à Dominique, toi qui les suis tout le temps, parce que on l'a vu, une équipe comme ça, on l'a vu en Angleterre, elle doit te faire mal, elle doit te marcher dessus, elle doit continuer. Là, on a vu qu'en seconde période, on va plus trop attaquer, on est à 4, on est à 5, et puis tout s'est éteint, tout s'est arrêté, et après on va nous dire dans les période importante du PSG, mais il n'y a pas l'intensité en Ligue 1, mais hier soir il fallait faire mal, il fallait continuer. Qu'est-ce qui est le plus honteux? Moi, ce qui me gêne le plus, c'est la seconde période où Paris n'a même pas respecté l'OM. La première, il les respecte, il les met minables sur 34 minutes, mais sur la seconde, c'est un manque de respect terrible, et chapeau à eux. Mais moi, si je suis joueur, ce qui m'arrache, parce que là, on a dit, mais on commence à ressortir en seconde, on a gagné la bataille de la seconde période. Mais t'as pas honte de dire ça? Des joueurs de l'OM qui disent ça? Mais allez vous coucher. Mais cachez-vous, les garçons. Mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus joué? Eh ben non. Tranquille. Moi, j'étais dans la télé. Et les mecs, ils disent, oui, mais vous comprenez, on a réussi à sortir un peu. Mais parce qu'ils t'ont permis de sortir. Et pourquoi Paris, Dominique, explique-moi, pourquoi Paris ne peut pas continuer à faire mal?
Ce Paris-là, 2019-2020, il a un problème de constance.
Mais depuis longtemps, ça fait 2-3 ans que c'est presque le même, non?
De constance. C'est vrai que c'est un problème qui était aussi un problème contre le Manchester United au match retour. Ils sont sortis du match. Ce sont des garçons qui, pour l'instant, n'ont pas compris que l'intensité, le rythme, la constance, c'était sur 90 minutes. Donc ils s'arrêtent au moment où ils considèrent que ça va, quoi. Contre Manchester, quand ils sont revenus à 2-1, pour eux, ça allait. Alors qu'il y a un but, ils étaient éliminés. Hier, à 4-0, Barcelone, quand il y a 4-0, ils essayent de mettre le 5e, ils essayent de mettre le 6e, et ainsi de suite, quoi.
Le Bayern face au Tottenham, ils enchaînent, ils en mettent 7. Manchester City, Guardiola à la mi-temps, ils demandent à ses joueurs d'attaquer.
Et après, personne ne dirait la Ligue espagnole est faible, ou le championnat anglais est faible. C'est pas grave si tu en mets 6. L'Eichstor en a mis 9 cette semaine à Southampton.
Ça reste bien une faiblesse aujourd'hui du PSG depuis nombreux
années. Ça, c'est un problème.
Alors, il y en a un qui n'était pas content, c'était sur le banc l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. On va écouter ce qu'il dit, notamment de cette deuxième période.
On a manqué beaucoup, beaucoup de qualité dans le deuxième mi-temps. Je n'aime pas du tout et je dis à l'équipe, c'est comme ça. C'est bien qu'on dit si on joue bien, mais si on ne joue pas bien,
pendant les deuxièmes 45 minutes. Ça doit être possible qu'on dise la vérité. Pour ça, on a souffri. Nous sommes heureux que nous n'avons pas une but encassé. Et non, je ne suis pas content avec les deuxièmes mi-temps, pas du tout.
Il y a des voix un peu discordantes hein, quand on lit dans les colonnes de l'équipe l'ancien Marseillais Bernard Pardot qui dit que c'est très intelligent d'avoir levé le pied comme ça en deuxième période pour se ménager pour la suite.
À ce moment-là, il joue 45 minutes par match et puis la deuxième mi-temps, il laisse dérouler. Alors,
déjà, cette semaine, ils avaient attendu qu'Mbappé entre
à l'heure de jeu, à la 60e.
À Bruges pour commencer à disputer le match. C'est comme un match de Ligue des Champions, il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Quoi.
Mais là, c'était pas vraiment voulu, là, par contre.
Oui, non, c'était pas voulu. C'est qu'ils étaient sous la pression du pressing belge et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Non, ça veut leur jouer des tours parce qu'il n'y a pas que Marseille dans le championnat de France. Il y a Reims qui est venu gagner au Parc. Il y a des bonnes équipes. Donc il faut qu'ils fassent attention. Puis en Ligue des Champions, ils vont aller à Madrid fin novembre, qui jouera peut-être la première place du groupe. Et puis le fameux huitième de finale. Voilà. Donc il faut se remettre au boulot et penser que le match dure 90 minutes.
Alors il faut aussi surtout souligner la victoire 4-0
ah bah oui.
Et cette première mi-temps stratosphérique que nous résume Marquinhos.
On sait que c'est pas un match comme les autres, celui-là, pour nous, pour les supporters, pour tout le contexte qu'il a. Et il fallait qu'on commence ce match vraiment avec beaucoup d'engagement. Une équipe de l'OM qui a de la qualité, qui veut avoir le ballon, qui aime bien jouer. Ils ont essayé de presser, ils ont essayé de jouer haut. Et nous, on allait voir des espaces derrière avec nos trois attaquants. Si on arrivait à sortir ce ballon et bien simple, sans faire des erreurs, je pense qu'on pensait qu'on allait voir des occasions et c'est ça qui s'est passé en premier mi-temps.
Voilà, vous avez adoré, j'imagine. Alors j'ai dit stratosphérique. Bon, Marc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Vous savez qu'ils peuvent faire encore mieux, c'est ça?
Non. Sur ce qu'on a vu sur 35 minutes, c'est du très très haut niveau dans tous les sens du terme, puisque les appels, le ballon arrivé, tout était télécommandé. C'est ce qu'on appelle pour moi la PlayStation à ce niveau-là. Donc c'était un régal à voir. Bon après, ça a duré 34 minutes et sur la seconde, on a déjà fait l'histoire.
J'ai presque un regret, c'est une talonnade de Mbappé pour Icardi. Et Icardi après se retrouve en face à face avec Mandanda et Mandanda la sort. S'il y avait eu un but sur cette action-là, c'était encore ça aurait fait qu'embellir cette première période qui est magnifique.
Le geste de Mbappé est assez exceptionnel.
Ouais, c'est
l'ouverture directe.
C'est génial. Ouais. Ça c'était du foot quoi. On peut aimer Marseille, mais reconnaître que là on a vu du foot hier.
C'est vrai. Avec un rendement exceptionnel aussi de ce fameux trio Mbappé, Icardi, Di Maria, ça commence à peser lourd ce qu'ils font ensemble tous les trois sur ces derniers matchs, pas seulement sur la première mi-temps d'hier soir. Quelle est la place pour Cavani maintenant? On l'a vu revenir.
Ah, c'est Cavani, vous. Moi, je croyais que vous aviez mis
Cavani,
Neymar, moi.
Mais Neymar, c'est le suivant, bien entendu. Mais et Tourelle va être devant un dilemme.
Bah pour moi, ils sont
son métier. Mais
pour moi, ils sont insortables. Icardi, vous pouvez pas. Il vient de mettre 7 buts en 5 matchs, donc on va pas le sortir. On peut pas lui dire, écoute, t'as fait ton boulot, donc tu vas aller sur le banc. Ah bon, pas vrai, non. Mbappé, bon, il a un poids considérable dans le football français et au PSG. On peut pas le sortir. Di Maria, je vois comment on pourrait le sortir. Donc il y a pas de place pour Cavani. La réponse est assez claire.
C'est ce qu'on pressentait en fait quand on a vu arriver Icardi. On se sentait que ses qualités était beaucoup plus compatible avec Mbappé, Di Maria et Neymar que Cavani, qui est plus un finisseur. Icardi, c'est un vrai joueur de ballon, même s'il touche peu le ballon, mais tout ce qu'il fait avec le ballon, c'est propre, quoi. C'est clinique devant le but, c'est le genre d'attaquant qui avait vraiment besoin le PSG, parce que je pense qu'en Ligue des Champions, ce genre d'attaquant, il va faire très très mal.
Il te redonne le ballon, lui. Quand tu lui donnes, il te redonne, alors que Cavani, quand tu lui donnes, en général, c'est pas sûr de l'avoir, quoi.
C'est ça.
Marc?
C'est vrai que tout a été dit, maintenant, faut savoir un petit peu, Mbappé, il veut jouer avec qui? Parce que je pense qu'il va être aussi très important. Alors c'est peut-être trop tôt de dire, mais c'est vrai que non. Mais moi j'inclus même Neymar dans ce système-là parce qu'aujourd'hui on voit qu'avec Icardi ça fonctionne très très bien et très rapidement, en sachant que Icardi était à 40% et Mbappé était à 60%. Et aujourd'hui il se passe quelque chose. Donc le gros problème pour moi Cavani aujourd'hui, et j'adore Cavani, il peut plus rentrer dans le groupe. C'est clair et net. Et je vous dis, je suis un pro Cavani. C'est une référence. Mais Neymar aujourd'hui, s'il veut rentrer dans ce groupe-là, et rappelez-vous, lors du premier match face à Madrid, Thomas Tuchel avait dit à la fin du match, j'espère qu'ils ont vu les deux en haut. C'était Mbappé et Neymar qui étaient là, parce que ce qu'ont fait ces joueurs-là, sans les patrons, avec les efforts défensifs et tout, le révélateur va être sur ce genre de match-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, ni Neymar, ni Cavani ne peuvent rentrer sur le front d'attaque. Parce que, aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, qui en sort? C'est pas possible de sortir. C'est-à-dire que, si on sort quelqu'un, il faut le génie de Neymar qui fasse gagner l'équipe 3-4-0 à lui tout seul. mais autrement ça sera difficile. Et là, Thomas Tuchel va au-devant de certains ennuis avec son groupe, parce que l'équipe qui est en place avec des Herrera, avec des... ça fonctionne très très bien.
Il y a deux solutions, c'est soit ne pas faire de choix, c'est attendre qu'il y ait des blessés, ça peut être plus facile pour Thomas Tuchel, soit
ça aide à se décider, oui.
Voilà, ça aide hein, comme ça.
C'est ce qui s'est passé depuis le début de la saison
pour lui. Pour l'instant, il est tranquille parce qu'ils ont jamais pu être ensemble, ça. Cavani, Mbappé et Neymar n'ont jamais joué encore ensemble cette saison et je crois que la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était en février dernier. Donc ça remonte un petit peu
avant la blessure, ouais.
Et l'autre solution, c'est de faire une attaque Neymar, Mbappé, Icardi et de mettre Di Maria dans le milieu à 3 avec Verratti et Gay. Par exemple, ou Verratti, Herrera, mais moi je préfère Gueye. Et puis en défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, un latéral droit, un latéral gauche, Bernat. Et donc c'est plutôt Kimpembe qui ferait les frais de
l'écart. En Ligue 1, c'est gérable. En Ligue 1, voilà, c'est gérable. C'est en Ligue 1, tu peux te permettre. Par contre, en Ligue des Champions,
ça risque le déséquilibre quand même. Tu risques de déséquilibrer ton milieu, qui est la force de ton équipe.
Ce que je vous ai donné, c'est le Real de 2014 qui gagne la Ligue des Champions. Hein.
On rappelle que Neymar revient dans le jeu dans à peu près 2 semaines.
Oui, hein, c'est ça.
Il sera de nouveau disponible.
Dans 15 jours, mi-novembre.
On n'a pas fini de parler de cette question-là. Oui. En tout cas, aujourd'hui, le PSG a maintenant 8 points d'avance, puisque Nantes, qui est son premier poursuivant et qui reste sur 2 défaites consécutives, reste malgré tout en 2e position. Et là, le trou est fait entre le PSG et
tout ça avec 2 défaites en plus. Hein. Ouais. Donc à Rennes et contre Reims. Donc ça fait peur.
Bon. Qu'est-ce que vous retenez d'autre de cette journée de Ligue 1? Il y a eu pas mal de choses. Hein. Il y a eu la victoire de Lyon, celle de Monaco.
Que Mbappé, qui est le meilleur buteur du championnat la saison dernière, avec 33 buts, il va avoir fort à faire avec Ben Yedder. Qui en a 5 de plus, donc grâce au doublé hier de Mbappé, et qui tient les pénaltys à Monaco, et qui à Monaco, avec Slimani, sera un peu les deux seuls à pouvoir marquer. Alors qu'au PSG, Di Maria, Cavani, Icardi, Neymar, tout le monde peut marquer. Donc, même s'il est à 5 buts, ce qui est pas beaucoup pour Mbappé, hein, parce qu'à coup de doublé, il peut vite rattraper Ben Yedder. Mais bon, Ben Yedder, encore une fois, tire les pénaltys. Ça peut ne pas être facile pour Kylian, mais moi, je pense quand même qu'il finira meilleur buteur.
Ouais, on voit le niveau qu'il a, quoi. On pouvait se poser des questions quand les joueurs, ils sont à l'étranger, on sait pas exactement leur niveau, même s'ils jouent dans une belle équipe de Séville, mais là, c'est dans son talent, il éclabousse la Ligue 1. Il est même presque trop grand pour cette Ligue 1. C'est bien d'avoir un joueur de ce talent en Ligue 1, parce que ça... Il y a de l'adversité par rapport à Mbappé ou les autres sur le classement de meilleur buteur. Mais il mériterait de jouer dans un club bien au-dessus que Monaco.
Ce qui est fou, c'est quand il est parti de Toulouse, il mettait 25 buts par saison. Ouais. Et que ça intéressait personne. Ah ben non, il vient du futsal. Je me rappelle à l'époque. Ah non, mais il vient du futsal, c'est pas intéressant. Il met 25 buts. Non, mais c'est du futsal, il vaut mieux qu'il parte. Mmh. Et puis là, quand même, il marque dans une équipe qui est très moyenne où il y a 2 joueurs qui jouent. Ouais. Pas 3, ouais, 2. Il est maintenant Lecomte qui rentre dans la danse, donc c'est parfait. Mmh. Et si eux, tous les deux, Slimani, ils vont faire mal tous les deux. Déjà, la semaine prochaine, c'est Marseille, ça va faire mal, à mon avis. Une pensée pour Kalaitachar et Camara, ou alors Alvaro qui revient.
Oui, Monaco-Marseille, c'est même cette semaine, hein,
C'est là.
C'est mercredi,
c'est là. Hein. Ah oui, Coupe de la Ligue.
Oui, Coupe de la Ligue. Oui. Wissam Ben Yedder,
c'est vrai.
Unique buteur de cette victoire de Monaco à Nantes, vendredi
Quel
soir.
Quel but, en plus.
Ouais.
Très joli but. Faire plus dans la lucarne. Antoine Comboiré à Rennes, qui a perdu 3-2 à Rennes, avec Toulouse, et qui a dit, je suis content pour Julien Stéphan, qui était un peu menacé.
Oui.
Je pense que s'il perdait, Olivier Létang, il était proche d'appuyer sur le bouton. Et donc, Comboiré, qui est quand même pas dans une situation facile, parce qu'il vient de reprendre Toulouse, il perd la dernière minute, après avoir été mené 2-0, il revient à 2-2, il perd 3-2, et il salue Julien Stéphan. Moi, je dis chapeau.
Ouais. Et Rennes, qui renoue avec la victoire.
Après 10 matchs.
3-2, après 10 matchs sans succès. Voilà pour la Ligue 1. Gets the shot away, takes a deflection, and the rebound is put in by Harry Kane in front of the goal. Would you believe it? Harry Kane! Oh, quel départ canon! Less than 50 seconds in. Mohamed Salah. In Salah scores in front of the goal, and Liverpool have turned it around at Fortress Anfield. 5-point lead at the top of the Premier League. Après la petite pause observée sur le terrain de Manchester United, le nul à 1 partout il y a 8 jours, eh bien Liverpool se remet donc dans son allure de champion. À un quart d'heure de la fin, il y a eu cette phase de jeu, Bruno, sur ce contact entre Sadio Mané et Serge Aurier.
Serge Aurier, ouais.
Alors bon, on voit, ça se passe dans la surface, on voit que Mané passe sa jambe entre l'Ivoirien et le ballon. Mmh. Il y a pénalty.
Bah oui.
Il y a eu pénalty. Discutable ou pas?
Non, non, pour moi non, parce que malheureusement, on le pressentait. Aurier doit faire attention, il fait un super geste défensif, et quand il se relève, il sait très bien que Mané est derrière lui, et il doit être plus vigilant, il sait très bien que Mané, il est malin, il est vif sur ses jambes, et il va tenter quelque chose. Et Aurier essaie de dégager comme ça d'un coup, et voilà, il touche la jambe de Mané, c'est indiscutable, il y a pénalty, ouais.
Et le pénalty est transformé par Mohamed Salah, et c'est ainsi donc que Liverpool l'emporte 2-1.
Je suis pas un spécialiste de Tottenham. Comment on en arrive à faire jouer Aurier en ce moment? Vous pouvez m'expliquer ou pas?
Parce qu'ils ont pas de remplaçant. Ils ont laissé partir Kevin Trippier, l'international anglais, à l'Atlético Madrid cet été. Ils l'ont pas remplacé. Et là, il se retrouve avec Aurier sur le couloir droit.
C'est quand même pas mal des fois. Enfin, sa défense, sa centre. Mais c'est
Aurier
limité.
Ouais, ah, mais c'est limité. Ouais,
ouais mais si tu veux, c'est pas gênant puisqu'il est encore passeur sur la semaine dernière. Il est encore passeur. Enfin, voilà, après, il n'a pas d'intelligence de jeu.
Des gens à latéral, ça doit d'abord défendre. Quoi.
Ouais, je sais, mais bon, en Angleterre, ça passe, on va dire. Non, ils défendent à 50 mètres.
Les latéraux de Tottenham, là, ils en prennent pour leur grade. Hein. Danny Rose à gauche et Serge Aurier à droite. Roy Keane, ils ont appelé Dumb and Number.
Oh, putain.
Donc autant dire que c'est pas très...
C'est pas gentil.
Non, pas très gentil. Mais non, c'est d'ailleurs, ce
très
match-là,
bon film, d'ailleurs.
C'est
très bon film.
C'est un peu la comparaison des latéraux. À Liverpool, vous avez Robertson et Alexander-Arnold qui sont peut-être les deux meilleurs aujourd'hui au monde et en face de joueurs qui sont en grande difficulté depuis deux ans maintenant.
Bon, cela dit, puisqu'on parle de Tottenham, il n'y a pas quand même du mieux à sortir de cette courte défaite?
Si, enfin, en tout cas, dans l'entame du match, dans la présence physique, athlétique, le pressing, ils ont joué beaucoup plus haut, il y avait du mieux. Le problème, c'est que Liverpool est tellement au-dessus qu'après, on a vu un rouleau compresseur rouge qui s'est écrasé sur le but de Tottenham et qui a été sauvé par son deuxième gardien, Gazzaniga, en l'absence de Lloris. Ça aurait pu faire un score beaucoup plus lourd. Donc aujourd'hui, la différence entre les deux équipes, elle est juste énorme, quoi. Elle est abyssale.
On a une transversale hein, sur le tir de Son qui ça pouvait faire 2-0.
Avant la 50e, ouais, c'est un tournant pour moi.
Pour Tottenham, quand même, il y a un super remplaçant à Lloris. Ça, c'est comme une bonne nouvelle, parce que Lloris, il a encore pour plusieurs mois. Et j'ai trouvé Moussa Sissoko en première période.
Ouais, très bon. Hein.
Très, très fort.
Sur le but, comme d'hab.
Voilà, donc on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas un joueur très médiatique, ouais. Très marketing et tout ça. Mais Moussa Sissoko, il a une puissance, un impact et une technique. Franchement, sur le but, il fait tout, quoi. Mm-hmm. Donc moi, c'est peut-être les motifs d'espoir pour Tottenham, qui est quand même une saison qui est compliquée.
Effectivement, ce Paolo Gazzaniga, qui est un gardien argentin et qui
était prêté, le week-end dernier, il a fait une boulette. C'est le week-end dernier qu'il a fait une erreur aussi.
Ouais.
Mais là, il sort le match qu'il faut. Bon, ça n'empêche pas que son équipe perd. Je pense que sur le penalty, il est complètement perdu. Parce qu'il bouge pas sur le penalty. Je sais pas ce qui se passe.
En fait, juste avant le moment où ça la tire, il passe sur ses appuis. Il sautait en fait. Il sautillait.
Je trouve ça très étrange là.
Et c'était assez bizarre comme image. Ouais. Alors qu'elle passe à 10
centimètres. Mais après, sur la première période,
il fait 11 arrêts. Hein. Ouais. 11 arrêts sur ce match, c'est énorme.
Cette victoire de Liverpool, on le disait en tout début d'émission, c'est la 9e en 10 journées, donc il y a eu la petite parenthèse à Manchester il y a une dizaine de jours. C'est un rythme de champion, forcément.
Ouais, c'est surtout l'attitude là qu'ont apprécié les observateurs, c'est qu'on sent presque un Liverpool déjà champion, mais l'âme d'un champion. Qui ne panique pas, qui maîtrise son sujet, qui reste collé à son football, même quand ils sont menés 1-0 au bout de 48 secondes, c'est vraiment une équipe qui est bien en place, quoi, qui est sûre de sa force. Et la manière dont ils ont réagi et fini le match, c'est extraordinaire. Et Klopp, à la fin du match, il était heureux par l'attitude des joueurs, quoi. Ils se dégagent une force qui est impressionnante. Après, on voit bien qu'ils sont pas infaillibles. Ça fait plusieurs rencontres où défensivement, il y a des petites lacunes, notamment dans le dos d'Alexander-Arnold, qui est meilleur offensivement que défensivement. Il y avait l'absence de Matip, qui est très bon côté de Van Dijk et Lovren,
c'est
compliqué. Ils ont pas un banc de touche extraordinaire à Liverpool, donc s'il y a une ou deux blessures importantes, ça peut porter préjudice.
Il y a quelques écueils encore sur leur route, hein. Il y a le Boxing Day,
il y a Manchester City dans 15 jours déjà.
Il y a Manchester City qui va rien lâcher, comme on dit. Il y a le Boxing Day où parfois le titre peut se perdre. Il y a l'attente de 30 ans qui risque de peser dans les têtes. Et puis il y a le Ballon d'Or, parce que comme c'est ouvert, comme c'est incertain, peut-être qu'au fond d'eux, Salah, Mané et Van Dijk y croient. Et les trois ne le seront pas Ballon d'Or. Il y en aura peut-être un des trois qui le sera, voire zéro des trois. Peut-être que ça sera Messi, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Même si je vois pas comment ça peut échapper à un des trois, mais bon, on en a vu d'autres. Oui. Et donc, si c'est Mané, peut-être que Salah se dira quand même, c'est Liverpool qui l'a eu, mais ça aurait pu être moi. Si c'est Salah, Mané se dira, bah, c'est lui qui a fait quand même une meilleure année, c'est quand même moi. Si c'est Van Dijk et les deux autres vont se dire, ah bon, maintenant c'est les défenseurs. Donc, bon, je sais pas, ça peut être perturbé quand même.
Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en jeu. On va écouter la réaction de l'entraîneur Klopp après cette nouvelle victoire de Liverpool.
It was a super game. It's just how football should look, how I should play against a really strong good.
C'était un super match. C'est comme ça que nous devons jouer au football contre un adversaire vraiment fort, bien organisé, qui représente une vraie menace dans votre esprit. Chaque perte de balle peut finir en occasion devant votre but, mais notre pressing a été incroyable. Nous voulions vraiment être performants dans ce domaine. Cela implique de perdre des ballons. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas non plus marquer à chaque fois. J'ai dit aux joueurs à la mi-temps que le seul problème était le résultat. À part cela, c'était parfait.
Voilà pour la réaction de Klopp. Alors dans cette journée, il y a eu pas mal de choses étonnantes. On va redire un mot quand même de ce score fleuve 9-0, qui est un score carrément historique, la victoire de Leicester sur le terrain de Southampton. Comment c'est possible des choses pareilles?
Quand vous prenez 9-0. Un carton rouge au bout de, je sais plus, c'était un quart d'heure ou 20 minutes, ouais. Forcément ça aide. Et puis surtout, il y a une anecdote assez drôle, c'est que Jamie Vardy, qui disait après le match, en fait, pendant la rencontre, il y a Johnny Evans, le défenseur, qui est venu voir ses attaquants, il dit non, on continue à 4-0, 5-0, on continue, il faut qu'on aille chercher le record. Donc 9-0 qui datait de 95, Manchester United Ipswich. Et voilà, ça montre qu'une équipe, elle a été chercher un record et qu'elle a continué à attaquer. Face à un adversaire qui a commis des erreurs assez hallucinantes, mais voilà.
Et dans des conditions dantesques, hein, ouais. Aussi. Mais surtout, il y avait le décès de leur président.
C'était l'anniversaire.
Ouais. Donc, et puis ça leur permettait d'être second, enfin de revenir.
Ils sont troisième.
De revenir sur le podium, ouais, quoi. Ouais, il y avait un intérêt à ce genre de match et bien faire les choses, parce qu'il y avait des hommages de rendu aussi. Mmh. Donc, presque ça tombait bien, presque ce match-là, à ce moment-là. Ils sont rentrés dans l'histoire.
C'était le derby de Claude Puel qui a été l'entraîneur dans les deux équipes. Il a visiblement laissé un meilleur héritage à Leicester qu'à Southampton. Mais c'est le dernier club qu'il a fait en Angleterre, c'était Leicester.
Il est méchant. Il est méchant.
Non, parce que j'adore Claude Puel et que je sais qu'il a fait du bon boulot là-bas et qu'il a été viré pour des raisons qui n'ont rien à voir, pas forcément beaucoup à voir avec le foot.
Alors c'est vrai que cette saison, la saison de Leicester avait été extraordinaire il y a quelques années. Là, ils sont quand même troisième, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 points de Manchester City.
Ouais, c'est la surprise de ce début de saison, enfin surprise, demi de surprise, parce qu'on les attendait un petit peu titiller le top 6. Ils sont en avance parce qu'ils profitent aussi des errements d'Arsenal, de Tottenham, de Manchester United. Et voilà, ils sont assez bluffants, mais on les connaît, hein. Depuis 2016, on sait qu'ils sont capables de créer des choses assez exceptionnelles. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils sont capables de tenir sur la distance et de se hisser dans le top 4? Ça serait assez drôle à voir.
Mmh. Il y a aussi ce Chelsea qui continue, alors je sais pas si on peut dire rouleau compresseur, mais en tout cas, ça fait 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.
Ouais.
Là, cette fois, c'est sur le terrain de Burnley, 4-2.
Ouais. On est 4-0. Ouais, ils ont fait un peu comme le PSG, ils ont relâché
10 minutes de la fin,
ouais, complètement relâché la rencontre.
C'est pas
encore un rouleau compresseur, mais en tout cas, ce que fait Frank Lampard, c'est assez exceptionnel.
C'est solide.
Ah, c'est solide, et puis surtout, c'est séduisant. Il fait jouer des jeunes. Il y a une vraie idée directrice dans le jeu. Moi, je trouve que c'est une belle pique aussi à Thierry Henry quand il avait choisi l'AS Monaco, la Ligue 1, plutôt qu'un club comme Aston Villa en Championship en D2 anglaise. Bah, Lampard, il a fait ça. Il a été se former à Derby County pendant un an. Il a fait des erreurs. Il a commis des erreurs. Il a appris son métier. Et aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est déjà prêt pour la Première Ligue, ce qui est, je trouve, assez exceptionnel quand même.
Frank Lampard n'a pas été champion du monde, et donc il est un peu plus modeste.
C'est vrai.
Parce que Jean-Pierre Henry est champion du monde, et le revers de la médaille, c'est qu'il a un melon incroyable.
il a pas raté la montée avec Derby aussi.
Mais finale des playoffs,
mais on peut mettre ça aussi.
C'est un exploit énorme déjà.
On peut mettre ça aussi sur le coup de cette jeune équipe qui a manqué l'expérience et qui a 3-4-0, se dit, ça y est, on est peinard. Et en fait, on est vite rattrapé par ces démons. Alors, il y a des buts magnifiques.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est peut-être la jeunesse qui peut leur faire du mal. Mais en tout cas, il va falloir, s'ils continuent comme ça, parce qu'après les échanges du Boxing Day et tout ce qui peut arriver, la saison est très très longue. Je pense peut-être qu'on reverra Giroud.
Et après, justement, je voulais prendre des nouvelles de nos champions du monde, Bruno. Est-ce que l'ami Giroud va pouvoir partir en mercato, sachant que Chelsea est toujours interdit de recrutement? Est-ce qu'ils vont laisser partir un garçon?
Non, moi j'y crois pas un seul instant, parce que pour l'instant c'est le troisième attaquant.
Ah oui.
On sait pas ce que va devenir Batshuayi, qui peut-être essayer de vouloir rebondir ailleurs en vue de l'Euro, ce qui serait pas pas bête. Giroud est rentré en jeu là à Burnley. Mm-hmm. Mais effectivement, pour l'instant, il faut qu'il se contente des miettes. Mais il y a un moment donné où tu as mis Abraham, qui marque plus déjà depuis quelques journées, va peut-être aussi laisser sa place et relancer Giroud.
C'est son
l'éternelle histoire de Giroud en première ligue.
Il a l'euro, lui.
Giroud?
Oui, donc ah si, oui. S'il joue pas, il peut pas aller à l'euro. Donc
ouais, mais moi je pense qu'il jouera.
Oh, il reste encore des matchs.
Son intérêt, c'est de partir.
À Giroud?
Oui.
S'il joue pas plus. Mais, voilà. mais Chelsea ne laissera pas partir. Chelsea peut pas recruter. C'est trop important. Hein. Et s'ils ont une blessure avec Abraham.
Il ne peut pas jouer. Lui ne peut pas. Oui, il est titulaire en équipe de France.
Oui, mais il est sous contrat.
Il est sous contrat avec le club s'ils ne veulent pas laisser partir.
Chelsea, ils ne peuvent pas se permettre.
Ça arrange toujours, non?
Dans ces conditions-là, sans pouvoir recruter, ça me paraît compliqué.
C'est-à-dire que tu récupères pas le tel joueur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il se tait, il travaille, et quand il rentre, il fait toujours les efforts, il fait pas la gueule. Donc tu sais ce que tu sais pas ce que tu vas récupérer, mais tu sais ce que tu perds.
Puis avec les jeunes joueurs, il y a aucune garantie que ça continue, en fait. C'est qu'à un moment donné, ils vont fatiguer, ou ils vont être un peu en dedans, et que les cadres, oui, ce qui est normal, et que les cadres vont rejouer à nous. Je pense qu'il va rejouer. Je me fais pas de soucis au Boxing Day, on va le voir. Au moins un match sur deux.
Bon, on dit un mot quand même de Manchester City qui a signé une victoire 3-0 sur Aston Villa et qui reste, alors peut-être pas en embuscade parce que il y a quand même un petit écart, là il y a 6 points sur Liverpool. Ouais.
Mais ça a pas plu à Guardiola cette rencontre. Hein.
Non.
La première mi-temps lui a pas plu du tout. Il a même, pour une déclaration un peu bizarre, il dit que si on joue comme ça toute la saison, on va finir relégué.
Ah, carrément.
Ouais. Donc ça, c'est le degré d'exigence de Guardiola.
Mais la première, elle est pas vilaine. Moi, j'ai vu, c'est pas vilain la première.
Non, mais ils sont pas dans le tempo habituel de cette équipe de City. Et le seul joueur qui était un peu au-dessus, c'est Sterling, qui arrête pas de marquer.
L'un des buteurs.
13e but en 14 apparitions cette saison. Il est exceptionnel. Mais voilà, je me fais pas non plus de soucis pour City. Ils ont l'habitude de ces sprints, ils ont l'habitude de faire la course derrière et de rattraper leur adversaire. Voilà, ils vont continuer, je me fais pas de soucis.
Liverpool va continuer de sentir la menace dans son dos avec ce Manchester City-là. Allez, on part en Espagne.
Con la luz y la magia de la Alhambra y la Sierra Nevada y su blanco resplandor. Ay, Granada, tú eres mi alegría. Granada, yo soy.
Ça s'appelait à Laurent Salerno la grande musique.
Non, pas sentimental,
c'est que non. On voit ce qu'il écoute chez lui le soir.
Oh ouais.
Vous savez ce que c'est, ça? C'est l'hymne de Grenade. Enfin, la Grenade. Grenade, le club.
Le club.
Le club qui se trouve être ni plus ni moins que l'actuel leader de la Liga à l'issue de cette 10e journée, même si, on ouvre les guillemets, le Barça ne jouait pas pour les raisons que l'on sait ce week-end. Et le Barça est tout juste collé derrière Grenade. Grenade qui est revenu cette saison en première division en Espagne. Après avoir passé 2 ans à l'étage du dessous, Mariamelli, ils sont revenus très fort. En fait.
Et oui, 20 points pris en 10 journées, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 10 encaissés. Donc c'est évidemment très satisfaisant pour un club promu. 55 millions d'euros de budget, Grenade, cette année, est l'une des plus faibles masses salariales de la Liga. Le club appartient à la société chinoise Link International Sports depuis 2016. Et à son arrivée, le président Li Zhang avait déclaré « Dans 3 ans, je voudrais voir Grenade en Coupe d'Europe ». Alors évidemment, ça avait fait sourire pas mal de monde à l'époque, mais du coup, ils sont plutôt bien partis cette année, même s'il reste encore beaucoup de matchs, évidemment. L'entraîneur de Grenade, c'est Diego Martinez. Il a 38 ans, il est espagnol, c'est le plus jeune entraîneur de la Liga. Il a passé 8 ans au FC Séville, ancien adjoint d'Unai Emery. Et Martinez s'appuie sur un groupe très lié, qui passe beaucoup de temps ensemble, même en dehors des matchs. L'homme fort de ce groupe, c'est l'attaquant Roberto Soldado, 34 ans, 254 matchs de Liga à son actif, quand même. Mm-hmm. Un buté, 3 passes décisives cette saison. Et dans l'effectif, il y a un joueur qu'on connaît bien ici en France, c'est l'ancien capitaine de Lyon, Maxime Gonalon. Il est arrivé cet été en prêt de l'AS Rome pour muscler l'entrejeu andalou et ça marche plutôt bien jusqu'ici.
Gonalon, bonne pioche.
Oui.
Pour lui.
Bonne pioche pour lui.
Ouais. Depuis son départ de Lyon, il a fait beaucoup de clubs, non?
Oui, il a échoué pas mal.
Il a surtout pas beaucoup de réussite.
Voilà. Ouais, il était au FC Séville l'année dernière, il avait joué seulement 3 matchs.
Et à la Roma,
c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui a une certaine forme d'expérience désormais. Donc ouais, c'est bien pour lui, quoi. Mm-hmm. Comme l'entraîneur qui a pu se faire la main dans l'ombre du génie Unai Emery. Donc, ça fait
ton copain.
Voilà. Donc c'est pas mal, c'est la belle histoire. De toute façon, dans le championnat, il y a toujours, on a parlé de Leicester, il y a toujours une surprise. Non, deuxième championnat de France, c'était pas exactement ce qu'on avait prévu.
Exactement.
Alors que Vahid et Ozik est parti quasiment une semaine avant la reprise, que Gourcuff, donc on n'imaginait pas travailler Kita, réussit un boulot plutôt honorable, même s'ils sont sûrs de défaite. Donc voilà, chaque championnat a ses petites surprises comme ça. Mais après, Grenade, c'est marrant.
C'est un personnage étonnant, ce Martinez. Il a une trajectoire un peu comme Mourinho, parce que très tôt, il a vu qu'il ne pouvait pas percer, qu'il ne serait pas joueur professionnel. Et il s'est orienté vers les études de sciences du sport et de coaching. Ensuite, en Andalousie, je crois qu'il est dans Andalousie ou de Galice, je sais plus. Et il a poursuivi comme ça son parcours dans les petites divisions, dans les petits clubs, jusqu'à ce que Monchi le déniche. Il trouve, enfin, il dit, ce mec-là est bizarre. Ses équipes jouent un football particulier. J'ai envie de le voir. Il le fait venir à Séville. Il intègre le staff technique du club. Il s'occupe à un moment de l'équipe B qui fait monter, je crois d'ailleurs.
Ouais.
Il a un parcours assez étonnant. Et il était entraîneur très jeune, hein, je crois dès l'âge de 27 ou 28 ans. Enfin, c'est assez incroyable. Il a une phrase assez marrante parce qu'on ne sait pas trop quel style de jeu il a, en fait. Et il résume ça en disant, si j'ai des citrons autour de moi, je fais une limonade. Si j'ai des oranges, je fais une orangeade. Et il s'adapte à ses joueurs. Il s'adapte à ses joueurs.
S'il a des grenades, qu'est-ce qu'il va faire?
Non, mais il est étonnant et il a battu le Barça en plus cette saison.
Oui, ils ont battu le Barça 2-0 à domicile au mois de septembre.
Ouais, c'est leur principal fait d'armes.
Marc, président asiatique, c'est ça?
Oui,
qui veut retrouver l'Europe sous 3 ans. Mais est-ce qu'il a parlé de Champion Project? Non, c'est important de savoir. Il faut de se renseigner s'il a parlé de Champion Project.
Ah, justement, il en a pas parlé, donc ça va peut-être marcher.
Ça va peut-être faire la différence.
Est-ce que ce côté équipe qui vit un peu à l'ancienne, là, en se voyant souvent en dehors des heures d'entraînement, là, ça peut, c'est vraiment décisif ou c'est anecdotique?
Je ne sais pas, ma génération, c'est pas vieux, j'ai commencé en 92, arrêté en 2005, jusqu'en 2005, on se voyait avec 3-4 joueurs, on jouait aux cartes, on se voyait l'après-midi, on sortait le soir,
stop.
Déjeuner, voilà. Donc il y avait, aujourd'hui, j'ai du mal à croire, peut-être que Dominique est plus au courant, que la plupart des joueurs, 5-6 joueurs, sortent fréquemment sur des parties de cartes, sur des, je sais pas, aujourd'hui, on dit que, c'est que la console, ils restent dans leur chambre, ils bougent plus, on peut plus jouer aux cartes, on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela. Je sais pas, après, c'est peut-être possible dans ce système-là, mais en tout cas, il y a toujours cette communion qui peut faire quand on est dans le dur, ça peut-être aider aussi.
Ça fait penser à Leicester, comme ce Grenade. Ouais. Leicester qui était failli être relégué de première ligue, qui venait de monter depuis 2 saisons. Et qui est champion en 2016 avec un groupe exceptionnel, qui mangeait des pizzas à chaque fois qu'ils gagnaient ensemble. Ranieri payait sa pizza. Enfin, il y avait une super ambiance. C'était humain et c'était l'ambiance d'un petit club. Et ils sont allés très très loin.
Ouais, on se souvient qu'à l'époque, on se demandait quand Leicester allait être rattrapé. Ouais. Et puis à la fin, on se demandait s'ils allaient être rattrapés. Ouais. Et puis ils ont été champions.
C'était drink water. Ça. L'homme qui était mal destiné, qui avait le nom mal destiné, quoi. Mal
pour Angleterre. Ouais.
Bon, ça fait un beau début de saison.
Oui.
Est-ce que ça peut faire une belle saison dans l'ensemble? Ou alors
le problème des surprises du mois d'octobre, c'est que c'est rarement celle du mois de mai, et qu'à un moment donné, dans cette Liga, même l'Atlético Madrid, voilà, parce qu'on parle beaucoup de Barcelone et du Real Madrid. Bon, le Real, je sais pas où ils vont, parce que c'est très compliqué en termes de recrutement pour Zinedine Zidane. Le Barça, l'effet Griezmann n'est pas l'effet escompté, mais ça j'aurais pu leur dire. Et puis donc ouais, l'Atlético, donc ça va être compliqué de, mais bon, il y a 4 places qualificatives.
Oui. Pour l'Europe.
Donc on a vu que Bergame,
dans la perspective
européenne, Bergame en Italie a réussi à se qualifier. Donc pourquoi pas.
Voilà, et puis on signale qu'au Portugal, il y avait aussi un promu qui était en tête du championnat avant la 8e journée, mais Famalicão s'est incliné 3-0. Ce week-end sur le terrain du FC Porto, les choses rentrent dans l'ordre, c'est ce que vous avez l'air de dire. Et c'est maintenant le FC Porto.
Des effectifs qui n'ont pas, ils sont pas pléthoriques, donc c'est compliqué.
C'est le Porto de Chancel Memba qui est maintenant en premier de la Liga portugaise. Merci à vous tous, j'allais dire messieurs, mais non, messieurs, dames, Marc Libra, Dominique Sévrac, Bruno Constant, Marie-Amélie Mott, merci aussi à David Finzel et Laurent Salerno. À demain pour un autre Radio Foot qui vous sera proposé et présenté par Hugo Moissonnier.